Le frère parlait du Nouveau Testament. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'aller dans des hôtels et parfois on trouve le Nouveau Testament des Gédéons et il y a parfois une petite note qui est donnée dans les chambres d'hôtel pour donner l'appréciation de l'hôtel. Et, voilà, une petite enquête. Et si vous avez un Nouveau Testament dans la chambre, dites c'est très bien. Et surtout le Nouveau Testament. Et s'il n'y est pas, vous dites vous devriez quand même avoir. Hein, le Nouveau Testament. Hein. Voilà. Allez, on lit dans la parole de Dieu, Colossiens, chapitre 1er, le verset 9e. Voici ce qui nous est dit. C'est pour cela que nous aussi, donc Paul parle à ses frères et à ses sœurs qui forment l'Église dans la ville de Colosse. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Passage de l'Écriture que nous allons, sur lequel nous allons méditer, du moins en partie, parce que je voudrais que nous puissions, nous intéresser tout d'abord, au premier verset où l'apôtre Paul, qui a entendu parler de cette épître, de cette ville de Colosse et de cette église qui se trouve là-bas, il a dit nous avons été informés de tout ce qui s'y passe et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, être remplis de la connaissance de sa volonté. Et je crois que ça fait partie de la vie chrétienne, cela. Savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Connaître la volonté de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, elle est extrêmement riche. Et si on veut donner un plan du Nouveau Testament, les évangiles nous révèlent Jésus, nous amènent à la foi en Jésus-Christ pour notre salut. Alléluia! Les actes des apôtres nous montrent comment l'évangile s'est répandu dans le monde. C'est l'évangélisation. Le livre de l'Apocalypse nous parle que le Seigneur revient bientôt, qu'il y aura des situations complexes, mais il faut garder la foi parce que la victoire lui appartient. Alléluia. Mais les épîtres nous permettent d'avoir une foi saine, une foi vivante et de comprendre comment marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et je crois que dès l'instant que une personne rencontre le Seigneur Jésus, il y a dans son cœur un feu qui brûle. Mais maintenant, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. De quelle façon veux-tu que je marche? Ici, il parle donc à ces hommes et ces femmes qui forment l'Église de Colosse. Colosse, c'est une ville d'Asie mineure où Paul ne s'est jamais répandu, Mais l'évangile s'est répandu jusque-là. Et un certain Épaphras, un collègue de l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu, y a apporté eh bien, la parole de Dieu. Et on s'aperçoit que ces hommes ont rencontré Jésus. Lorsque Paul commence son épître, il donne des aspects très positifs sur leur vie spirituelle. Il parle de leur foi, de leur espérance, de leur amour. Une foi vivante, une espérance vivante aussi. Ils savent où ils vont, ils savent qu'ils sont sauvés. Et puis un amour fraternel qui est tout à fait sincère, c'est vraiment le fruit de la nouvelle naissance. Mais cependant, lorsqu'on lit attentivement eh bien, cette épître, on s'aperçoit que concernant la volonté de Dieu, c'est-à-dire quel choix je dois faire pour obéir au Seigneur, pour suivre le Seigneur, on s'aperçoit qu'on est un peu dans la confusion quand même. Parce que si je lis attentivement l'écriture, je trouve par exemple au chapitre 2, au verset 4 de cette épître, ceci. Paul dit, mais je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ah, moi, si on me dit ça, je me remets en question. Je me dis, tiens, le Seigneur veut me dire quelque chose. Emmanuel, le Seigneur veut te dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de te tromper et qui emploient le moyen de la séduction. Voyez. Et puis, si on va un peu plus loin, toujours dans la parole de Dieu, Paul réitère et il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tiens, alors quand on dit attention de ne pas être la proie, ça veut dire que donc je suis le gibier et qu'il y a un prédateur quelque part. Ou ça me fait penser à d'autres textes de la parole de Dieu où il nous est dit que le diable est comme un lion. Eh bien, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ouh là là. Alors là, on s'aperçoit que c'est quelque chose eh bien, qui nous concerne et qui est extrêmement important pour nous-mêmes de connaître la volonté de Dieu. Et je crois que nous, dans cette salle, nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes qui croyons que Jésus existe, qui croyons que, eh bien, qu'il nous a donné sa vie, mais on veut être plus que des gens qui croient. On veut être des disciples du Seigneur. Alléluia. C'est non seulement des gens qui savent, qui croient et qui ont expérimenté, mais maintenant des gens, des hommes et des femmes, des disciples, c'est-à-dire qui marchent comme Jésus a marché. Alléluia. C'est-à-dire des élèves. Et on a besoin de savoir, on a besoin de connaître, on a besoin de comprendre. Alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que eh bien, lorsqu'on lit la Bible, on comprend les choses de Dieu. Amen. Ce n'est pas au-dessus de nos capacités, ce n'est pas au-dessus de ton intelligence. D'ailleurs, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit afin que tu comprennes. Il y a quelque temps de cela, est venue pendant quelques mois, ici dans l'Assemblée, c'était avant le Covid, une sœur en Christ qui avait fait vraiment une rencontre avec le Seigneur, mais l'Assemblée dans laquelle elle se trouvait était particulière parce qu'elle m'a dit à la fin, « Mais dans mon église, on n'a jamais ouvert la Bible. » C'est bizarre ça. Et alors, ben oui, enfin, on parlait de certaines choses. Alors, on prophétise, on chante des chants, voilà, il y a un peu de folklore, etc. On parle un peu d'argent, mais voilà, on n'ouvre pas la Bible. Et moi, je me disais, mais la Bible, c'est compliqué à lire. Et je lui dis, et maintenant, vous en êtes où? Ben, depuis que je viens là, ben, je me mets à lire la Bible. Et elle m'a dit, mais c'est facile en fait. Elle m'a dit, mais je comprends. Je dis, ben bien sûr, c'est pour ça qu'elle a été écrite. Alléluia. Et afin que vous connaissiez les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable, mes frères et sœurs. Alors, cette bien-aimée, eh ben, elle a passé quelques temps, quelques mois. Et puis, comme elle habitait à une certaine distance, il y avait une assemblée qui ouvre la parole de Dieu sérieusement. Et elle s'est rattachée à cette assemblée. Mais on bénit le Seigneur. Alléluia. Qu'il se soit servi de nous pendant quelques mois. Alléluia. Amen. Mais je pense que nous avons besoin eh bien, de connaître la volonté de Dieu. De connaître la volonté de Dieu pour marcher selon Dieu. Connaître la volonté de Dieu pour porter du fruit. Connaître la volonté de Dieu pour connaître Dieu, Dieu lui-même, avoir une intimité avec le Seigneur. Alors mon premier point, c'est connaître la volonté de Dieu. Et je l'ai dit, eh bien, on n'est pas simplement des croyants, mais on veut être eh bien, des hommes et des femmes eh bien, qui veulent suivre comme des disciples eh bien, le Seigneur Jésus. Et quand on veut comprendre la volonté de Dieu, et nous l'avons dit dans les chants, nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais on se tourne vers Jésus, alléluia. Et l'Écriture nous dit, et Paul dans ce texte nous dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, alléluia. Tu as tout pleinement en Jésus. Et c'est pour cela que j'ai voulu lire avec vous toute cette description que l'apôtre Paul est en train de faire de Jésus en disant « Il est le premier, il est le premier-né de toute la création en lui. Toutes les choses ont été créées qui sont dans les cieux et sur la terre, etc. etc. » Il a la primauté sur tout le Seigneur. Alléluia. Et si tu as besoin de quelque chose, si tu veux connaître ce qu'est la volonté de Dieu, comment on la met en pratique, tu as besoin de te tourner vers Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un modèle qui ne soit pas terrestre, mais nous avons besoin d'un modèle qui soit céleste. Alléluia. Lorsque Moïse montera sur la montagne, Dieu lui dira ceci, fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur cette montagne. Et il y avait sur cette montagne toute la description du tabernacle. Ce qui est dans les cieux devait venir sur la terre. Alléluia. On n'est plus à l'époque de l'ancienne alliance, mais Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Et il est le modèle parfait, amen. Et que nous puissions nous attacher à ce modèle. Alors quelqu'un dira, mais moi, pasteur, je n'étais pas tellement doué à l'école. Et puis le Seigneur, il est tellement grand. Vous savez, Jésus, il est merveilleux. Amen. Oh, il est merveilleux, le Seigneur. Il est majestueux, alléluia. C'est merveilleux dans son amour, alléluia. Quand il nous parle, c'est clair, c'est direct. Il pardonne. Alléluia. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il prend du temps pour nous expliquer. Et avec le Seigneur, il n'y a jamais de cancre. Il n'y a jamais de cancre. Oui. Il se met à notre portée. Et parfois, moi, j'ai remarqué que ceux qui disent « je suis un cancre », ce n'est pas forcément leur faute aussi, parfois. C'est aussi parce que le professeur s'y est mal pris avec eux. Vous voyez, il les a un peu choqués, rudoyés, on les a humiliés devant tout le monde. Alors, ils se sont enfermés dans leur coquille. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme ça. Et je voudrais te dire qu'il veut prendre du temps avec toi. Il est un enseignement, mais aussi il veut te remplir, il veut t'apprendre à marcher avec lui et il veut se mettre à ton niveau. Et moi, je remercie le Seigneur toutes les fois qu'il s'est mis à mon niveau. Parce que je ne sais pas comment vous êtes, vous. Moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alléluia. Pilar, elle est comme moi. Regarde, hein. Je vais vous donner un témoignage. Je peux vous donner un témoignage ? On sait que le Seigneur est fidèle, oui ou non ? Vous savez que le Seigneur répond à la prière ? Oui ou non ? Bon, je vous en fais part, comme ça, vous le saurez. Et puis, on partage cette expérience, on est entre frères et sœurs. Récemment, nous sommes partis en vacances, et nous avons fait un beau voyage et dans un pays à l'étranger. Et on s'est mis longtemps à l'avance pour réserver, etc., avoir les meilleurs prix. Bon, Dieu a fait grâce. Et puis avec Anne, on a dit, mais on s'est aperçu que nos papiers n'étaient pas en règle. Voilà. Donc on a fait les cartes d'identité, les renouveler, etc. Bon, voilà. Et puis à la mairie de Jacou, qui peut donner les cartes d'identité, voilà. Castries, c'est pas pareil. Et donc, une dame qui commence dans le métier ne s'est pas aperçue que notre dernier petit, Johan, il a un strabisme. Et quand il regarde la photo, il ne regarde pas droit. C'est un strabisme. Il faut un document médical pour... Et après des mois, des semaines, son dossier était rejeté. Mais on n'était plus dans les temps. Et... le temps passe, on ne reçoit pas cette carte. Moi, j'y vais, et je tombe sur la responsable. Je dis, merci Seigneur, tu ouvres les voies. Dieu me parle et me donne, mets la paix dans mon cœur. Mais la paix, il faut la garder au bout d'un moment. et voilà le temps. On a une semaine de partir, on n'a rien du tout encore. Le temps passe, etc. Bon, merci Seigneur, Dieu nous fait du bien. On a un service de baptême, gloire à Dieu. Mais on n'a toujours pas de carte d'identité. On doit partir le mercredi et on est le mardi. Et là, les enfants, c'est les vacances, se lèvent ensemble, prennent le petit-déj. Et là, je vais faire mon discours, le discours du père de famille. L'important, c'est d'être ensemble. C'est pas grave si on manque un voyage, et c'est vrai. Ce qui est important, c'est que on soit ensemble, etc. Et je prépare, choisir les bons mots pour que chacun voilà, accepte. Et pendant que je me mets à parler, et on sait que le Seigneur agit au dernier moment, vous le savez ça, moi aussi je le sais. Et pendant que je parle, le téléphone sonne. Allô, Monsieur Gabrielli, c'est là, oui, c'est là. C'est la mairie de Castries. La carte d'identité de Johan est arrivée, vous pouvez la chercher. La veille pour le lendemain. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a besoin d'apprendre, alléluia, que notre Dieu ne change pas. Amen. Et d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Celui qui t'aime, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui, eh bien, nous dit l'Écriture, eh bien, qui est venu pour te réconcilier avec le Père Céleste, au travers de son œuvre qu'il a accomplie à la croix, où son sang a été versé, il ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Et ça, tu as besoin de le connaître. Tu as besoin d'être rempli de cette connaissance. Alléluia. Et la connaissance de Dieu, elle nous vient de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. De telle sorte que dans les petites choses comme dans les grandes choses, eh bien, nous avons besoin de comprendre, eh bien, que notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et cette connaissance, nous en avons besoin. Pourquoi? Pour marcher, c'est mon deuxième point, pour marcher dans les voies de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître Dieu pour connaître Dieu. Ou connaître la volonté de Dieu pour connaître la volonté de Dieu et avoir, excusez-moi, une espèce de melon comme ça, en disant, je suis très, très spirituel. Je, vous voyez, je sais tout, voilà, etc. Non, 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 non. Le but d'un homme, d'une femme qui cherche la volonté de Dieu, comme on l'a lu ensemble, mais c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Peut-être quelqu'un se dit, mais... Et dans une méprise, mais est-ce que la volonté de Dieu va vraiment me convenir? Je me souviens de cette jeune fille qui me présente un garçon qui, bon, elle n'était pas vraiment baptisée, mais elle est, non, elle n'était pas vraiment baptisée, elle n'était pas baptisée du tout. Parce qu'autrement, vous allez dire, c'est quoi cette nouvelle doctrine? Surtout qu'il y a le frère Michel, là, il va dire, il prêche bizarrement là-bas. Il y a des gens qui sont vraiment... Voilà, bon. Et donc, enfin, elle me dit, voilà, le Seigneur m'a conduit, ce garçon, ceci, cela, Dieu, ceci, Dieu, cela. Et je lui dis, mais est-ce que tu as prié le Seigneur pour... Parce qu'il est quand même... Il ne marche pas avec Dieu, ce garçon-là, du tout. Il ne connaît rien du tout aux choses de Dieu. Elle m'a dit, non, je n'ai pas demandé au Seigneur, parce que je savais ce qu'il allait me répondre. Parce que quand on cherche la volonté du Seigneur, on cherche, eh bien... C'est plus notre avantage, eh bien, que nous cherchons. Vous savez, en réfléchissant sur ces moments-là, je me suis souvenu encore une fois de l'apôtre Paul, lorsqu'il reçoit la révélation de Jésus, il dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est fort, parce qu'en persécutant l'Église, Jésus dit, c'est moi que tu touches. Entre parenthèses, quel prix nous avons aux yeux du Seigneur. Vous voyez, c'est moi que tu touches. Et alors qu'il voit le Seigneur, le Messie, le Christ, et lui, c'est un juif, mais il tombe à genoux, il tombe à terre, mais et Jésus, d'un geste, aurait pu effacer sa vie de la terre. Et voilà qu'il vit, et il découvre la grâce de Dieu. Et la deuxième question est celle-ci. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je crois qu'un homme et une femme qui est né de nouveau, eh bien, n'a de cesse que de chercher à faire la volonté de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait, de ne pas nous laisser dans notre égarement, de ne pas nous laisser dans nos fausses pensées, dans nos élucubrations, dans nos faux raisonnements. Hier, un jeune, lors de la réunion de jeunesse, priait ainsi, « Ta parole est un marteau. » Et la parole de Dieu, elle est un marteau qui est capable de briser tous nos faux raisonnements. Alléluia. Et peut-être ce soir, quelqu'un, cet après-midi, a-t-il besoin de dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Non pas en disant, « Mais moi, voilà ce que je voudrais que tu dises, Seigneur. » Trouvez pas que parfois, nous avons une façon de prier qui ressemble à un bilan d'information pour le Seigneur. Comme si, « Seigneur, tu sais ceci, tu sais cela, tu sais ceci, et je voudrais ceci, je voudrais cela. » Et on ne laisse pas le temps au Saint-Esprit de mettre dans notre cœur et de former la pensée de Dieu. Quelle est sa volonté ? Alléluia ! Et l'Écriture nous dit que lorsque l'apôtre Paul rentre dans cette perspective, il est aveugle, il n'y voit rien. Et quand la réponse de Dieu lui vient, mais ses yeux s'ouvrent au travers d'un miracle qu'un homme de Dieu fera à son égard, et certainement peut-être quelqu'un au milieu de nous a-t-il besoin que les yeux de son cœur soient illuminés par l'action du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Jésus, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été sérieux avec le Seigneur, mais ça veut dire que tu ne sais plus où tu en es. Ça veut dire que tu ne sais plus comment te conduire, tu ne sais plus où se trouve ta droite, où se trouve ta gauche, et tu as besoin d'une action du Saint-Esprit afin qu'il te conduise au bon endroit, au bon moment, pour que tu connaisses la volonté de Dieu et que tu sois libéré de toutes ces mauvaises pensées. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui est ainsi, qui se posait bien des questions, qui cherchait Dieu. Je l'aime bien cet homme, il a un certain âge, il s'appelle Siméon, et on le trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2. Il nous est dit que c'était un homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. C'est ça qui fait toute la différence. L'action du Saint-Esprit. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et comme les parents du Seigneur Jésus apportaient donc le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçoit dans ses bras. Et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce que, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et lui aussi il est éclairé. » Alléluia. On a besoin d'être éclairé. Et cet homme qui se posait des questions, mais qu'est-ce qu'il va m'arriver après la mort? Qu'est-ce qu'il va m'arriver après ceci, après cela? Et moi, malgré ma justice, ma piété, je me sens pas à l'aise. Jusqu'au moment où ses yeux s'éclairent sur la personne de Jésus. Amen. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous a-t-il besoin tout simplement de laisser le Saint-Esprit former le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et attention, chers frères et sœurs, à ne pas prendre notre volonté pour la volonté de Dieu. C'est humain. Dans la parole de Dieu, on voit même des prophètes qui servent Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, ils sont complètement dans l'erreur. Je pense notamment au prophète Samuel. Il doit choisir le successeur de Saül qui a chuté. Et Dieu le conduit à Bethléem, vers Isaïe. Il lui demande de faire passer tous ses fils. Et il y a Eliab, il est beau, il est gros, il est grand. Enfin, pas gros, grand, costaud, quoi, peut-être. Bref. Et il dit, mais c'est lui. Et le Saint-Esprit lui dit, je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Je voudrais peut-être m'adresser à un jeune homme ou une jeune fille. L'homme, ton œil regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. C'est vrai que c'est important d'aimer quelqu'un pour son apparence, sa stature. Oh, elle a des yeux. C'est formidable. Oui. Le peuple d'Israël a été comme ça. Nous, on veut faire comme les autres. Tous les autres peuples, ils ont un roi. Et moi, papa, maman, toutes mes copines, elles ont un copain. Je veux faire comme les autres. Israël a voulu faire comme les autres. Ça a été la cata. Oui. Et quand il a été le moment de remplacer, attends. On ne va pas se tourner vers ce qui frappe les yeux. On va regarder au cœur et on va trouver David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est important quand on est jeune et qu'on envisage de se marier, de réfléchir celui avec lequel ou laquelle on va se marier, savoir où il en est avec Dieu et avant de lui déclarer quoi que ce soit, d'observer quelle est sa vision, sa marche avec Dieu et notamment dans l'Église. Parce que, pour être pratique, frères et sœurs, la vie chrétienne, bien sûr, dans ta chambre, bien sûr, tu lis ta Bible, mais enfin, les fruits et tout ça, ça se manifeste ici. La vie de prière, la vie de consécration, la vie de service, le témoignage, ça se fait ici, voyez. Et quelle est la place que tu prends parmi le corps de Christ? Alléluia. Et jamais, eh bien, le Seigneur ne nous, eh bien, ne nous désolidarise, eh bien, du corps du Seigneur. Alors, j'avance. Connaître la volonté de Dieu, oui, connaître la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher dans la vérité. Mais il nous est dit aussi pour porter du fruit. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Siméon, je vous ai parlé de Samuel, je vous ai parlé de Paul. Ces hommes-là, cherchant à faire la volonté de Dieu, ils portent du fruit. Ils sont en bénédiction pour le Seigneur, pour le peuple de Dieu. Ils sont en bénédiction pour le peuple de Dieu. J'ai lu quelque part, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mon beau-père, qui était boxeur avant de rencontrer le Seigneur, m'a dit ça, c'est bon pour les boxeurs. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais après, il a compris les choses. Eh oui, eh oui. Vous savez, notre modèle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Et voici ce qui nous est écrit concernant le Seigneur qui est venu vraiment pour accomplir la volonté de Dieu. Oui ou non? Si il y a quelqu'un qui a accompli parfaitement le plan divin, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Et voici ce qui nous est dit concernant eh bien, le Seigneur. Nous est dit, « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et vous avez remarqué, il nous est dit, donc Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire, c'est le chef, c'est celui qui suscite la foi et le consommateur qui mène la foi à la perfection. Et il nous est dit, en échange eh bien, de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Et on peut se poser la question, mais quelle était cette joie? Ben, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et avec émotion et de tout mon cœur, je voudrais vous le dire, cette joie que le Seigneur avait dans son cœur, qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix du calvaire, c'était le plan de Dieu, et cette joie, c'était toi. La joie de voir ton nom inscrit dans le livre de vie. La joie de te savoir un jour, eh bien, avec lui dans ce ciel de gloire. Alléluia, amen, alléluia. C'est-à-dire que s'il y a une vie qui a porté du fruit, et du fruit par excellence, c'est bien la vie du Seigneur. Alléluia, amen. Et dans la même perspective, voulons comprendre eh bien, que notre vie eh bien, est destinée à porter du fruit, beaucoup de fruits, non pas simplement le fruit de l'Esprit, d'une vie sanctifiée par l'action du Saint-Esprit, où nous manifestons les fruits de l'Esprit, une vie riche parce qu'il y a cette communion où nous exprimons également les dons spirituels, mais une vie eh bien, dont la grâce de Dieu eh bien, est imprégnante pour bénir toutes celles et ceux qui sont autour de toi. Alléluia. On vient d'entendre cette association des Gédéons. Et moi, je crois que si cette association dure depuis si longtemps, je crois qu'elle a 150 ans, hein, quelque chose comme ça, c'est parce que cette association, ces hommes et ces femmes qui servent, veulent être en bénédiction pour leur génération. Alléluia. Et quand on cherche à faire la volonté de Dieu, on ne cherche pas un intérêt personnel, on cherche à faire le plan de Dieu, et le plan de Dieu, il est dirigé vers les hommes et les femmes de notre génération. À commencer par ton épouse, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, mais tout ton quartier, vers les hommes de ce monde, de cette génération, qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime. Alléluia. Et je voudrais te poser cette question. Est-ce que ça brûle dans ton cœur encore, le salut des âmes? Est-ce que ça brûle dans ton cœur encore? Eh bien, le fait que ton témoignage puisse inverser le cours des choses, eh bien, auprès d'un collègue de travail. Vous avez remarqué comment cette jeune fille ici à Montpellier s'est mise à ramasser les Nouveaux Testaments, elle ne supportait pas de les voir eh bien, dans la poubelle. Ça a interrogé une jeune fille et des années plus tard, ça l'a amenée à se tourner vers Jésus. Alléluia! Et je crois que nous aussi, eh bien, nous avons besoin d'être imprégnés eh bien, de cela. Tout à l'heure, nous lisions ce texte de l'apôtre Paul qui nous disait « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Mais pourquoi? Parce qu'au travers de l'apôtre Paul, des multitudes ont été gagnées à Christ. Alléluia. Et peut-être quelqu'un dans un problème de famille, tu es dans tes pensées, et c'est vrai que la nature humaine, on nous fait mal on fait mal. À moins qu'on soit changé par le Saint-Esprit. Et on ne donne pas le mal en échange du mal, mais on donne le bien en réponse au mal. Il faut vraiment être renouvelé. Hein. Surtout quand le chef d'équipe il est pénible, surtout quand le travail, on en a ras-le-bol, on en a fait le tour. Surtout lorsque peut-être une espèce d'usure qui s'est formée dans le couple et que voilà, il y a besoin d'être renouvelé, etc. Mais le Saint-Esprit n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la vie que Dieu donne, parce que le fruit, c'est l'expression de la vie, c'est une vie de résurrection. Là où il y avait la mort, le Seigneur met la vie. Alléluia. Abraham, tu vas avoir un enfant, pas avec Agar, mais avec Sarah. Cette femme que tu connais et qui est eh bien, stérile. Dans l'Antiquité, c'était une cause de divorce, la stérilité. Ne la répudie pas, c'est avec elle eh bien, que ma promesse eh bien, va s'accomplir. Et mes frères et sœurs, là où il y avait la mort, le sein de Sarah était mort, Dieu a mis la vie. Alléluia, amen. Et je crois que le Seigneur qui a fait ce miracle dans un corps est capable de le faire dans bien des couples. À lui soit la gloire. Je termine tout à fait en disant que quand on sert le Seigneur et qu'on connaît Dieu, mais on est en bénédiction pour les autres, mais on est béni soi-même. On est béni soi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte de Colossiens, eh bien, l'apôtre Paul parle des effets de la volonté de Dieu. Il nous dit ceci, et je le prends très rapidement avec vous, dans Colossiens au chapitre, voilà, c'est toujours au chapitre premier, il nous est parlé de ceci, eh bien, de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Des gens qui sont forts, des gens qui sont joyeux, des gens qui sont persévérants, des gens qui sont patients parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué, et ils grandissent par la connaissance de Dieu. Une espèce d'intimité, on n'a pas le temps de trop développer, mais vous savez que dans la parole de Dieu, le verbe connaître ne veut pas simplement dire connaître. S'il y a une connaissance intime, il y a un rapport qui est de l'ordre de l'intime. Et je crois que c'est à cela que le Seigneur veut nous appeler. Et en faisant sa volonté, en étant ce que la Bible appelle un ami de Dieu, il y a une telle intimité qui se fait entre lui et nous que malgré la fatigue, on se relève. Malgré le découragement, on persévère. Malgré les tristesses, on est toujours joyeux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la communion du Seigneur Jésus. Alléluia ! C'est lui qui renouvelle nos forces. À lui soit la gloire. Alléluia ! Alors je voudrais vraiment nous inviter les uns les autres, peut-être, à nous relever et à dire, Seigneur, je veux me lever pour te servir. Même s'il y a un prix, même s'il y a la croix, même parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais renonce-moi à mes propres projets. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il peut y avoir de la souffrance, etc. Oui, c'est vrai, mais le meilleur, il est devant avec le Seigneur. Alléluia, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Est-ce que vous voudriez qu'on puisse prier comme cela, en disant, Seigneur, je veux chercher à faire ta volonté. Alléluia. Plus simplement être eh bien, un croyant, mais un disciple de Jésus. Amen. Vous voulez bien qu'on on fléchisse quelques instants nos têtes. Amen. Seigneur, te rendons grâce, te bénissons. Merci pour le temps que nous avons pu prendre, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de nous renouveler, de nous encourager. Merci pour, Seigneur, la bonne vision du salut des âmes avec cette association des Gédéons. Nous voulons la garder parce que ce n'est pas simplement la vision, Seigneur, d'une association, c'est la vision du peuple de Dieu, de l'Église. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous voulons chercher à faire ta volonté. Seigneur, tu vois celui, celle, Seigneur, à qui tu as parlé, j'en suis convaincu. Seigneur, comme le remettant à tes pieds, pour dire, tu n'es pas simplement quelqu'un qui a été appelé pour le salut, mais tu as été appelé également pour faire ma volonté, pour me servir. Et cette volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, elle est bénissante, elle est enrichissante. Alors ce soir, ce matin, que peut-être dans ton cœur, tu puisses dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cherché mon intérêt, j'ai cherché ma volonté et j'ai oublié de faire la tienne. Maintenant, Seigneur, ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et je voudrais vous dire, et c'est moi qui vous le dis, en cherchant à faire la volonté du Seigneur, vous ne serez jamais perdant. Mais au contraire, vous gagnerez. Vous gagnerez. Ce matin, vous puissiez dire devant le Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. Renouvelle-moi, renouvelle mon intelligence pour que je comprenne. Donne-moi de la sagesse, Seigneur. La Bible nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui ne fait de reproche à personne, mais qui donne à celui qui demande. Et vous, que vous puissiez lui demander, passez du temps sous le regard du Seigneur et vous serez surpris de la façon dont le Seigneur va vous répondre, va répondre à vos questions, va vous conduire dans ses voies pour vous bénir. Alléluia. Je ne vais pas vous demander de lever votre main parce que ça va être personnel. Mais là, dans votre cœur, prenez cette décision de dire, Seigneur, je veux être ton disciple, je veux te suivre. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux t'apporter chacun des frères et sœurs, mais, et moi-même également, parce que nous voulons te servir, nous voulons être tes disciples. Cependant, Seigneur, nous avons vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Comme Siméon, Seigneur, conduit dans le temple par le Saint-Esprit pour comprendre ton plan. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, je te demande, Seigneur mon Dieu, de bénir les frères et les sœurs. Et que cette église, Seigneur, soit une église qui soit en bénédiction pour ce quartier, en bénédiction pour les familles que nous représentons, en bénédiction pour les collègues de travail, Seigneur, qui sont autour de nous. Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, tu renouvelles et nous te disons un grand merci, Seigneur, pour ton grand amour. Amen.